Chapitre 8. Fais ce que je te dis. Mais maman! Les ronflements de Jim profondément endormi grossissaient le cœur des ronronnements du poêle, des craquements des pierres et des sifflements du vent. Alice était venue s'asseoir sur le lit de Zoé. On chauffera les aiguilles pour éviter les infections. Ça va faire trop mal. Crois-moi, ce sera rien en comparaison du mal que Jim peut te faire. Il s'en fout de moi, il s'intéresse qu'aux vieilles. Merci pour les vieilles. On sait pas combien de temps il restera avec nous. Et comme j'ai pas non plus l'intention de lui céder, j'ai peur qu'il se rabatte sur toi. Je te signale que tu lui as déjà cédé. Un spasme douloureux contracta le bas-ventre d'Alice. J'ai commis une erreur et j'ai pas l'intention de la reproduire. Et moi, je dois mutiler à cause de tes conneries. Alice prit une profonde inspiration. Surtout, gardez la tête froide. Ne pas réagir aux provocations de sa fille. Elle s'assura d'un bref regard que leurs éclats de voix n'avaient pas réveillé Jim allongé sur le lit. Par chance, il avait besoin de ses 10 à 12 heures de sommeil quotidien. « Même si je l'avais pas faite, cette connerie, tu aurais été en danger. » reprit-elle à voix basse. « Tu as vu comment il te regarde. Tu crois vraiment que des points rouges et des croûtes suffiront à l'empêcher de... Je n'en suis pas sûr à 100%. J'espère qu'il se tiendra tranquille au moins le temps de nous organiser. Si ça marche pas, je lui donnerai ce dont il a envie pour te préserver. » Zoé garda un temps de silence, les yeux larmoyants, avant de hocher lentement la tête. « D'accord, on peut toujours essayer. » Elles mirent immédiatement leur projet à exécution. Théo, plongé dans la lecture d'un manga, ne leur prêta aucune attention. Elles jetèrent 2 aiguilles de couturière dans l'eau bouillante d'une casserole, se munirent d'un feutre rouge indélébile, d'une lampe, et après avoir récupéré les 2 fines tiges métalliques, s'enfermèrent dans la salle de bain du rez-de-chaussée, où, par les grilles d'aération, se diffusait la chaleur douce du poêle. Alice pratiqua avec la pointe d'une aiguille 10 aiguilles de perforations dans la peau tendre des cuisses et du pubis de sa fille, couvert d'un duvet fin et noir. Zoé se mordit les lèvres pour ne pas hurler, mais ses gémissements sourds et ses larmes faillirent empêcher sa mère de continuer. Serrant les dents, Alice nettoya les plaies avec un coton imbibé de solution antiseptique. Puis, quand elles eurent cessé de saigner, elle se servit du feutre pour cribler de points rouges les renflements de la vulve de l'adolescente. Et voilà le résultat. Alice plaça un miroir entre les jambes écartées de Zoé, qui tiqua lorsqu'elle découvrit son autre jambe ainsi dénaturée. Elle eut vraiment l'impression d'être rongée par une maladie infectieuse. À mon tour. Tu veux que je te le fasse, maman? Pas la peine, je devrais pouvoir y arriver seule. Alice retira ses vêtements du bas et s'assit, les jambes écartées, sur le vieux bidet, le seul élément conservé de la salle de bain originelle. Donne-moi au moins la lampe, je vais t'éclairer. Si tu veux. Alice enfonça la pointe de la 2e aiguille quelques centimètres sous ses lèvres, à l'intérieur de sa cuisse. La douleur lui rappela les brûlures sèches des piqûres quotidiennes pendant sa longue hospitalisation pour anorexie à l'âge de 15 ans. 1 ou 2 prises de sang par jour, et comme ses veines n'étaient pas très saillantes, d'interminables séances de charcutage par les infirmières les moins adroites. Le rayon de la lampe tremblait, comme si Zoé ne supportait pas de voir sa mère se mutiler, ou parce que l'intimité ainsi exhibée de sa génitrice la mettait mal à l'aise. Alice perça 10 trous sur la face interne de ses cuisses et sur les côtés de son pubis, qu'elle avait en partie épilé à la cire quelques jours plus tôt. Pour Jim. Quelle conne.
Pourquoi tu t'es rasé?
La voix de Zoé était hésitante, gênée.
Pour plaire, répondit Alice. Les hommes aiment ça. Et puis c'est horrible quand les poils dépassent de la culotte. Moi, je les raserai pas.
Pourquoi?
Si tous les hommes sont comme Jim, j'ai vraiment pas envie de leur plaire. Ils sont pas tous pareils, Dieu merci.
Le rayon de la lampe s'écarta de nouveau des jambes d'Alice et se promena quelques secondes sur le carrelage de terre cuite de la salle de bain.
Éclaire-moi, s'il te plaît. Si Jim est aussi affreux que ça, pourquoi t'as couché avec lui?
Je t'ai déjà dit que j'avais fait une bêtise.
T'en avais marre de papa?
Alice passa un coton imbibé de solution antiseptique sur les plaies d'où perlaient des gouttes de sang.
Je croyais en avoir marre. La vie n'est pas toujours simple, Zoé. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire?
Essayer de survivre, pour ton frère et toi.
Non, je veux dire, maintenant que papa est mort. Tu vas pas chercher un autre...
Zoé, ton père n'est pas mort.
Il le disait lui-même. Quand la fin du monde aura commencé, plus personne pourra survivre dehors. Ça sert à rien de croire qu'il va revenir. À rien.
Des sanglots étranglèrent la voix de Zoé. Le rayon de la lampe piqua de nouveau vers le sol, révélant des taches de sang sur le carrelage.
« Je le sentirais s'il était mort »,
murmura Alice, enveloppée soudain d'une ombre froide.
C'est le microbe qui t'a mis cette idée en tête. Lui, même devant son cadavre, il continuerait d'affirmer qu'il est toujours vivant.
Arrête d'appeler ton frère le microbe, Zoé. Nous devons tout mettre en œuvre pour survivre, au moins pour que le feu de Dieu n'ait pas servi à rien. Éclaire-moi.
Alice tremblait lorsqu'elle appliqua la pointe du feutre rouge sur ses muqueuses. Elle fut obligée de s'y prendre à plusieurs reprises pour laisser des traces visibles sur les replis soyeux de cette chair qui n'avait pas exulté depuis trop longtemps. Si par miracle Franks revenait, si la vie voulait bien lui offrir ce cadeau, elle ne permettrait plus à leur couple de s'enliser dans l'amorosité. Elle déploierait ses sortilèges de femme pour susciter et prolonger leurs désirs. Zoé avait raison. Il n'avait pratiquement aucune chance de survivre, mais elle voulait encore croire à son retour. Elle avait l'intime sensation que les liens n'étaient pas rompus, qu'ils continuaient de respirer et de bouger au fond d'elle. Elle observa les résultats de son travail dans le miroir. Les points rouges du feutre et le sang séché des plaies simulaient une éruption de boutons qui rebuterait tout homme normalement constitué. Mais Jim le parasite était-il un homme normalement constitué?
Le feutre finira par s'effacer, dit Zoé.
On refera régulièrement les points, chaque soir s'il le faut, jusqu'à ce qu'on ait trouvé le moyen d'éliminer Jim. Le rayon de la lampe se promena sur le mur, sur le plafond.
Si on l'éliminait maintenant, pendant qu'il dort, un coup de couteau dans le cœur et...
Tu crois que c'est si facile de tuer un homme? Si on le rate, lui ne nous ratera pas. Il faut guetter le bon moment, ne lui laisser aucune chance.
La lumière revint frapper le visage d'Alice.
L'endormir avant, peut-être, souffla Zoé.
Ce serait idéal, mais avec quoi?
Il n'y avait pas de somnifère dans la communauté?
Pas que je sache, tout le monde était contre.
Je crois bien que Caroline en prenait en cachette. Enfin, c'est Julie qui me l'a dit.
Julie avait tendance à raconter des mensonges.
On pourrait aller fouiller dans leur ancienne chambre. Peut-être qu'on trouverait quelque chose.
Ça coûte rien d'essayer, en tout cas.
Je m'en occuperai.
Une série de coups ébranlèrent la porte de la salle de bain.
Qu'est-ce que vous fichez là-dedans?
La voix de Jim.
D'un geste du bras, Alice jugula le flot de terreur qui menaçait d'emporter Zoé.
On a un problème,
répondit-elle d'une voix ferme.
Quoi encore? Un problème de femme, je t'expliquerai après. Maniez-vous, j'ai besoin des chiottes. On a fini, on sort dans quelques instants.
Quel genre d'infection?
Du genre qui touche les femmes, apparemment, puisque Zoé et moi sommes atteintes et pas toi ni Théo.
Lorsque Jim, visiblement courroucé, avait demandé des explications à Alice, elle l'avait entraîné dans la salle de bain et avait soigneusement refermé la porte derrière eux.
C'est quoi encore cette merde?
Le mécontentement ou la méfiance se traduisait chez lui par un arrondissement des yeux et une tendance au grommellement. Alice baissa résolument son pantalon, sa culotte et maintint relevé son pull et sa polaire.
Regarde-toi-même.
Jim se pencha et à la lueur de la lampe examina le bassin d'Alice tout en gardant une distance prudente. Elle sut que le stratagème fonctionnait lorsqu'une grimace de dégoût déforma le visage du parasite.
Putain, c'est dégueulasse!
Alice rajusta ses vêtements, pas fâchée de se soustraire au regard exorbité de Jim.
Je sais pas ce que c'est exactement. Au début, j'ai cru que tu m'avais refilé une saloperie vénérienne. Puis quand j'ai vu que Zoé elle-même avait été touchée, j'ai pensé à une infection virale ou bactérienne. On doit avoir des antibiotiques quelque part dans le feu de Dieu, mais j'ignore s'ils seront efficaces. En tout cas, ça démange, et ça brûle horriblement.
Jim se redressa dans une série de froissements et de craquements.
T'es sûr que ta fille est atteinte?
Elle a exactement les mêmes boutons, les mêmes démangeaisons, les mêmes brûlures que moi.
Peut-être qu'il y a des saloperies dans l'eau. Je croyais qu'elle était filtrée.
Elle l'est, mais rien n'est jamais garanti à 100%.
Tu crois que c'est contagieux?
Elle marqua un temps de silence pour le laisser mariner dans ses inquiétudes.
Sans doute, puisque l'une de nous deux a contaminé l'autre. Il vaut mieux éviter les contacts si on veut pas prendre de risques.
Il lui jeta un dernier regard de frustration et de dégoût avant de se diriger vers la porte.
On dormira pas ensemble pour le moment. Ça me paraît être une bonne idée.
Elle avait gagné l'essentiel. Du temps. Jim était allé chercher son lit et s'était installé le plus loin possible des autres, tout en demeurant dans la chaleur du poêle. En contrepartie de cette menue victoire, Alice et les enfants devaient supporter l'humeur massacrante du parasite, qui râlait en permanence sur la nourriture, sur les restrictions d'eau, de bois et de gazole, le manque de lumière, la proximité des deux vérolés qui risquaient de lui inoculer une maladie grave, peut-être mortelle. Il leur avait demandé d'aller incuber ailleurs, dans une chambre. Alice lui avait rétorqué que c'était à lui, s'il craignait tant la contamination, de s'isoler dans une autre partie de la maison. Il n'avait pas insisté, même si des lueurs meurtrières avaient embrasé ses yeux sombres. Parfois, il se levait et se plantait devant la baie vitrée. Les cendres continuaient de voler, moins épaisses cependant, et la couche grisâtre dans la cour intérieure atteignait maintenant une hauteur d'un mètre. De temps à autre, une lueur vive, rouge, mauve ou verte, déchirait le rideau de ténèbres et illuminait quelques secondes les particules en suspension. La terre tremblait régulièrement. De petites secousses frémissantes qui traversaient le feu de Dieu sans créer d'autres dégâts que des nuages de plâtre et des fissures dans les joints du carrelage. Alice s'était débrouillée pour mettre Théo dans la confidence. De ses explications, il avait retenu que maman et Zoé jouaient les malades pour éviter d'être embêtés par le Grax. Il comprenait maintenant pourquoi ce dernier avait fini par rapporter son lit dans la grande salle. Il avait demandé à sa mère s'il ne risquait pas de tomber malade à son tour. Elle lui avait ébouriffé les cheveux avec un large sourire et l'avait embrassé en lui disant de ne pas s'inquiéter. Il continuait de s'inquiéter cependant. Pour eux, bien sûr, bloqués dans la maison en compagnie de ce prédateur dangereux qu'était le Grax, mais aussi pour son père, perdu dans les ténèbres, jeté sur les routes, glacé et enseveli sous les cendres. Il lui semblait apercevoir des silhouettes engoncées dans plusieurs couches de vêtements. Elles progressaient avec lenteur sur une surface défoncée et balayée par les averses de particules grises. Il ne les distinguait pas avec les yeux. Comment aurait-il pu voir quoi que ce soit à travers des murs épais du feu de Dieu? Elles marchaient dans sa tête. Comme on lui reprochait souvent ses délires fantaisistes, il craignait qu'elles ne fussent que les fruits de son imagination. Cependant, les visions s'imposaient à lui sans qu'il cherchât à les susciter ni à les stimuler, au contraire des mondes fabuleux qu'il créait et étoffait jour après jour. Les silhouettes n'appartenaient pas à la multitude des héros ou des méchants qui peuplaient ses aventures intérieures. Il en déduisait qu'il était relié à une autre réalité. Une réalité située au-delà de ses murs, au-delà de l'espace et du temps. La réalité de son père. En lui s'ancrait la certitude que, tant que le Grax rôderait dans le feu de Dieu, son père n'aurait aucune chance de retrouver sa place. Théo avait laissé son arc et ses flèches dans une annexe de la maison qui était devenue son terrain de jeu presque exclusif. Il avait posé des boîtes de conserve et des bouteilles en plastique sur le manteau de la vieille cheminée pour améliorer la puissance et la précision de son tir. Avant le départ des autres familles et le déclenchement de la fin du monde, il réussissait à ficher profondément le fer dans le bois vermoulu de la porte, ce qui l'avait conduit à prétendre, un peu prématurément sans doute, qu'il avait désormais la possibilité de tuer un bison avec une seule flèche, comme ses modèles les Indiens des plaines d'Amérique. Ils s'étaient tous moqués de lui, et surtout ses pestes de filles, y compris la petite Marie, qui quelques jours auparavant lui avait affirmé qu'elle n'aimerait jamais personne d'autre que lui. Il devait à tout prix récupérer son arme afin de libérer sa mère et sa sœur des griffes du Grax et permettre à son père de reprendre sa place dans la maison. Elle n'accepterait jamais qu'il affronte le froid terrible du dehors. Il se débrouillerait donc pour sortir à leur insu, pendant qu'elle dormirait par exemple. Il se souvenait avoir caché l'arc et les flèches sous une vieille couverture, et espérait que le froid n'aurait pas rendu cassant le bois et le fil de fer qui servaient de corde. Il prendrait le temps de s'en assurer pour garder toutes ses chances face au Grax. Fort de ses résolutions, il se replongea dans la lecture du manga qu'il connaissait par cœur et dont le héros, un garçon d'une douzaine d'années, surmontait une à une les épreuves terribles qui jalonnaient son existence.